Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de l'heure du crime, Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de notre émission et à la une cette histoire terrible qui est arrivée à une jeune Suédoise, Susanna Zetterberg, assassinée le 19 avril 2008 par un chauffeur de taxi clandestin qu'il avait pris en charge à l'aube, à la sortie d'une discothèque parisienne. C'est aujourd'hui le dernier acte, en tout cas le dernier acte judiciaire de cette affaire terrible. Bruno Chollet, dont le procès donc en appel s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Melun, a été condamné en 2012 par la cour d'assises de Paris à la peine maximum prévue par la loi, perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Depuis le début de l'affaire, il nie. On va beaucoup revenir sur ces dénégations dans un instant. On va parler du retentissement énorme qu'a eu cette affaire en Suède. On reviendra sur la personnalité de ce multirécidiviste déjà condamné par le passé dans des affaires de viol et d'enlèvement de jeunes femmes. Et puis aussi sur l'enquête, bien sûr, de la brigade criminelle qui a permis de l'identifier en quelques jours. On va faire ça avec Georges Brunier, qui est venu en voisin de la rédaction d'RTL. Bonjour Georges.
Bonjour Jacques.
Vous travaillez au service police-justice d'RTL. Vous avez suivi, avec d'autres bien sûr, cette affaire terrible, parce que pendant quelques jours, évidemment, on ne savait pas ce qui s'était passé. Je viens de parler de la brigade criminelle. Cette affaire, il faut la situer où dans l'histoire de la crime ?
C'est une histoire qui, aujourd'hui encore, marque beaucoup les esprits quand on en parle aux enquêteurs. Je crois que c'est de toute façon une remarque qui est valable aussi pour tous les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Dieu sait que il y en a beaucoup et souvent, j'ai envie de dire, des meurtres, des enlèvements, des viols, mais on est dans une affaire où il y a une violence absolument inouïe. Et c'est une affaire qui avait beaucoup marqué les policiers parce que il fallait à tout prix arrêter Bruno Chollet. On ne savait pas encore qui il était dans les quelques jours qui ont suivi les faits, mais parce que on avait la conviction qu'on avait affaire à un prédateur sexuel, à un possible tueur en série, et donc c'était une affaire qui était
pouvait recommencer
exactement, et c'était vraiment la crainte des policiers de la crime.
Ouais. Alors on reviendra sur la polémique. Hein. Je ne sais pas si son ADN avait été ce qui n'était pas le cas. Donc dans ce fameux fichier national des empreintes génétiques, est-ce que ça aurait avancé ou pas l'enquête d'un mot
Ce qui est sûr, c'est que l'ADN, on s'en rend compte quotidiennement, peut faire considérablement avancer des enquêtes. Là, finalement, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose, parce que finalement, grâce à d'autres moyens technologiques et grâce aux techniques d'enquête de la brigade criminelle, on a pu se mettre sur la trace, finalement, de Bruno Chollet très rapidement.
Alors, vous nous raconterez ça en détail dans quelques instants. Tout de suite, nous allons rappeler en quelques mots les circonstances dans lesquelles ce drame s'est déroulé. Paris, 19 avril 2008, 4h30 du matin, une jeune étudiante suédoise, Susanna Zetterberg, âgée de 19 ans, quitte seule la Scala, une discothèque dans laquelle elle a passé la nuit à s'amuser avec plusieurs de ses amis. Celles-ci veulent continuer la fête, mais Susanna doit rentrer chez elle dans le petit studio qu'elle partage avec une autre étudiante à Montmartre. En effet, pour se faire un peu d'argent de poche, elle travaille le jour comme serveuse occasionnelle dans un café près des Galeries Lafayette et elle doit embaucher vers 8h30 ce matin-là. La nuit sera donc très courte. Susanna a trop bu. Elle titube un peu sous les arcades de la rue de Rivoli. Un premier taxi refuse d'ailleurs de la prendre à son bord, mais ce taxi la voit monter quelques minutes plus tard dans un monospace blanc qui n'a pas les insignes réglementaires des taxis parisiens. 5h02, Susanna envoie un SMS à son amie Vera. Vera est restée, elle, à la Scala. Et dans ce SMS, elle lui dit que le chauffeur du taxi dans lequel elle est montée l'inquiète. Le chauffeur a l'air bizarre, écrit-elle. 11 minutes plus tard, le faux taxi quitte Paris et se dirige vers le nord de la capitale. Susanna commence à être très inquiète car elle a compris que le chauffeur n'avait pas pris la direction de son domicile. Elle tente alors d'appeler à deux reprises l'un de ses amis, mais cet ami malheureusement est sur répondeur. Les appels seront plus tard localisés par les enquêteurs au niveau du Stade de France. Il est exactement 5h13. 5h20, le chauffeur s'arrête en forêt de Chantilly, à 50 km au nord de Paris. Il extorque les deux cartes bancaires de Susanna avec les codes, et puis il la menotte dans le dos et il lui plante un couteau dans la poitrine du côté du cœur. Cette blessure sera mortelle. L'agresseur va tirer ensuite sur la jeune fille, 4 balles de 22 longs rives dans la tête, et puis il met le feu au cadavre. 5h30. À cette heure, un automobiliste qui se rend à son travail repère un monospace blanc garé à la lisière de la forêt. Et 10 minutes plus tard, deux femmes qui circulent également sur le même trajet distinguent de la fumée et ce qu'elles prennent pour un mannequin abandonné qui se consume dans une clairière en bord de route. 6h02. Le tueur effectue un premier retrait avec l'une des cartes de sa victime. Il y en aura 3 au total, à Senlis, à Chantilly et aussi à Luzarche, dans le Val d'Oise. Les caméras de surveillance des banques saisissent une silhouette floue, mais qui permet de distinguer certains détails vestimentaires de l'homme qui vient d'utiliser le distributeur de billets. Il faudra 4 jours pour que les 40 policiers de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres réussissent à identifier et à arrêter le tueur. Il s'agit d'un certain Bruno Chollet, multirécidiviste, déjà condamné pour plusieurs enlèvements et viols. Sa dernière condamnation pour exercice illégal de taxi remontait à quelques semaines seulement avant le drame. Et sur RTL, le jour de cette arrestation, le 25 avril 2008, Julien Dumont racontait comment les enquêteurs avaient réussi à remonter jusqu'à cet homme.
C'est un considérable travail de recoupement qui a permis cette interpellation. Premier de ces petits détails, un pull de camionneur. C'est ce que le meurtrier de Susanna portait lorsqu'il a tenté de retirer de l'argent avec la carte bleue de sa victime. Deuxième indice, le témoignage d'une jeune femme qui s'est manifestée après le meurtre de la Suédoise pour dire qu'elle aussi avait embarqué à bord d'un taxi clandestin bizarre. Le témoin permet alors de dresser un portrait robot du suspect. Avec ces deux éléments, la brigade criminelle étudie alors toutes les photos de conducteurs de faux taxis et tombe sur un homme interpellé fin mars au volant d'un taxi clandestin à Paris. Il porte le même pull que l'assassin de Susanna et correspond au portrait robot. À partir de là, les policiers de la brigade criminelle obtiennent un nom de suspect, le surveillent discrètement, épluchent toute sa vie et découvrent qu'il conduit depuis peu un monospace blanc semblable à la description faite par des témoins du véhicule qui a embarqué la jeune Suédoise il y a maintenant une semaine. Hier, tout s'accélère, le récidiviste semble s'agiter, roule jusqu'à Bougival. Les policiers, craignant qu'il ne se débarrasse d'indices, décident de lui passer les menottes. Sa garde à vue peut durer jusqu'à demain 16h.
Julien Dumont, le 25 avril donc 2008 sur RTL. Une pause tout de suite et on retrouve Georges Brognier du service police-justice d'RTL qui a suivi l'enquête évidemment pour notre station et on va revenir avec lui plus en détail encore sur cette enquête exceptionnelle, il faut bien le dire, de la brigade criminelle.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
À l'occasion du procès en appel aujourd'hui devant les assises de Melun de Bruno Chollet, déjà condamné en 2012 à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans pour l'assassinat de Susanna Zetterberg, assassinat qu'il nie. Nous revenons en détail sur l'enquête et sur la personnalité de cet homme et sur l'affaire d'une manière générale avec Georges Brognier du service police-justice d'RTL qui a suivi évidemment à ce moment là pour la rédaction à la fois, mais on va surtout en parler tout de suite d'ailleurs, l'enquête donc de la brigade criminelle. Vous disiez tout à l'heure, Georges, que c'est la téléphonie qui a permis aux enquêteurs de la brigade criminelle de refaire le scénario minute par minute quasiment de ce qui s'était vraiment passé. Comment est-ce qu'ils ont procédé?
Alors très simplement, le téléphone de Susanna n'a jamais été retrouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux éléments clés dans cette enquête. Il y a d'un côté le téléphone de Bruno Chollet qui lui, comme beaucoup de voyous lorsqu'ils commettent des crimes, coupent leur téléphone portable. C'est très frappant, son téléphone portable est coupé pendant grosso modo 24 heures oui. avant et après le crime. Celui de Susanna, en revanche, est resté allumé. Il est coupé un petit peu avant 6h du matin. C'est sans doute d'ailleurs Bruno Chollet qui s'empare de son téléphone, voyant que dans le taxi, elle passe des coups de fil. Elle essaye d'alerter ses amis. Donc, il s'empare de son téléphone et le coupe. On ne ressonnera plus jamais. En revanche, les policiers de la brigade criminelle ont pu reconstituer, en effet, comme vous le disiez, le trajet effectué par le taxi, puisque en reprenant les fadettes, les bornages du téléphone, on a pu reconstituer étape par étape, ça, depuis la Scala jusqu'à la forêt de Chantilly, à peu de choses près, le trajet effectué par le taxi de Bruno Chollet.
D'accord, on savait donc de façon certaine que le numéro de Susanna Zetterberg avait activé les bornes tout au long de ce chemin.
Exactement, et on se rend compte très rapidement qu'en fait le taxi de Bruno Chollet effectue un trajet qui n'est pas du tout le bon. Elle est censée regagner son appartement dans le quartier de Montmartre, et le Chollet prend en revanche la direction de Saint-Germain d'Invalides, roule très lentement pour ne pas attirer l'attention des policiers, et remonte petit à petit vers la forêt de Chantilly.
Alors, tout s'est précipité, là, Julien Dumont, il y a un instant, rappelé qu'il y a donc eu un portrait robot qui a été établi par les enquêteurs, qu'il y avait l'affaire du taxi clandestin, donc ce qui les a emmenés sur cette première piste qui était la bonne, en fait. Hein.
C'est ça, exactement. En fait, très rapidement, les policiers se basent sur le témoignage d'une des copines de Susanna, qui était avec elle ce fameux, dans la nuit de vendredi à samedi, à la discothèque La Scala. Et cette copine raconte qu'elle a reçu un appel à peu de choses près vers 5h du matin de Susanna, qui était en effet ivre. Vous l'aviez dit tout à l'heure, elle a beaucoup bu ce soir-là, Susanna. Oui. Donc elle a des propos qui sont décousus, mais elle dit quand même qu'elle est consciente qu'il se passe quelque chose et que le taxi dans lequel elle est n'est pas tout à fait normal. C'est ensuite ces amis-là qui vont alerter les policiers, qui vont parler de cette conversation avec le mot taxi, et donc les enquêteurs de la brigade criminelle vont se diriger vers le service compétent, ce qu'on appelle les BOER, qui connaissent très bien les taxis clandestins parisiens et qui très rapidement vont soumettre aux enquêteurs de la crime le nom de Bruno Chollet.
D'accord. Et ce portrait robot, ça veut dire que Bruno Chollet avait été vu par quelques personnes avant ou au moment où il prenait à son bord.
Il y a en fait en effet un témoignage capital qui va être déposé quelques jours après la mort de Susanna Zetterberg. C'est celui d'une jeune femme qui travaille dans le monde de la nuit et qui raconte, elle n'avait pas encore déposé plainte, elle raconte que une semaine précisément avant les faits, alors qu'elle sortait de la Scala à nouveau dans la nuit de vendredi à samedi, elle a pris un taxi clandestin, un monospace blanc aux vitres fumées, avec un conducteur qu'elle reconnaît, qu'elle pense quand on lui montre une première description, elle dit en effet que ça correspond à Bruno Chollet, avec un homme qui avait un comportement pour le coup complètement anormal, qui conduisait extrêmement vite, extrêmement lentement, et surtout qui lui a fait des propositions à caractère sexuel, et elle a réussi à s'enfuir à la dernière seconde.
Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur la journée du vendredi 25 avril, parce que donc les enquêteurs ont tous ces éléments dont vous venez de parler. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On n'intervient pas tout de suite, on surveille, on essaye de savoir où il habite, etc.
C'est ça. En fait, le mardi, on est donc 3 jours après le meurtre, les enquêteurs ont sous la main le nom de Bruno Chollet. 2 jours plus tard, le jeudi, une équipe de l'anti-gang de la BRI va mettre en place un dispositif de surveillance et va organiser une filature H24 de Bruno Chollet. Le vendredi après-midi, donc 24 heures plus tard, tout va s'accélérer, puisque les policiers de la BRI vont apercevoir Chollet dans le bois de Boulogne, qui fait des allers-retours, qui cherche quelque chose, qui creuse surtout quelque chose dans le sol, avec une petite pelle, et c'est là qu'ils vont décider de l'interpeller, parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont devant eux le suspect numéro 1.
Voilà, et quelques temps plus tard, ils vont rue des Vinaigriers, je crois,
à son domicile,
où ils interpellent également sa compagne.
C'est ça.
Alors on va parler de cette compagne dans l'émission, parce que vous l'avez rencontrée et vous avez parlé avec elle, et vous nous direz en fait, moi je me souviens de ce document qu'on va réentendre tout à l'heure, où elle a l'air complètement surprise, elle débarque complètement, on comprend
c'est
pas
ça.
Comment cet homme pouvait avoir vraiment une double vie. Mais auparavant, on va faire une pause d'abord, et puis ensuite on va parler de l'énorme retentissement que cette affaire a eu, on le comprend, en Suède.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et nous sommes en compagnie de Georges Brunier, invité de l'heure du crime, pour revenir sur l'affaire Susanna Zetterberg, donc du nom de cette jeune Suédoise enlevée, par un faux taxi devant une boîte de nuit parisienne très tôt le matin et dont on a retrouvé le cadavre le lendemain. Un meurtre d'ailleurs horrible qui a frappé autant les journalistes que les policiers, on en parlait hors antenne avec lui. Il faut dire aussi, je ne vous l'ai pas dit, que comme le procès évidemment commence, le procès en appel commence aujourd'hui à Melun, on ne pouvait pas avoir en direct à RTL les avocats de la partie civile et de la défense, mais ils seront présents d'une certaine manière puisque Margot Agnès les a joints ce matin par téléphone, et on entendra maître Jean-Yves Le Borgne, l'avocat de la famille de Susanna Zetterberg, et puis aussi maître Aurélie Cerceau qui est l'avocate de Bruno Chollet. Ce sera très intéressant de voir dans quel état d'esprit ils abordent l'un et l'autre ce procès, sachant, et ça on va y revenir tout à l'heure, que Bruno Chollet nie totalement les faits, malgré des charges vraiment accablantes, hein, sur lesquelles on va revenir, Georges Brunier, et en même temps il parle de complot policier.
Bon, sa grande théorie. Ouais.
C'est ça, sa grande théorie, et effectivement, il va s'y tenir, en tout cas son avocate nous l'a confirmé. Alors, parlons de la Suède. Évidemment, cette affaire fait un bruit énorme en Suède. Sur place, on va entendre un document RTL du lendemain, enfin du jour où on a vraiment formellement identifié Susanna Zetterberg comme étant la victime de Bruno Chollet. Sur place, le correspondant d'RTL, Olivier Truc.
Dans sa douleur, la famille de Susanna a accueilli l'arrestation du meurtrier présumé avec un gros soulagement. Le meurtre de la jeune Suédoise a été d'autant plus lourd pour elle et pour les Suédois qu'il est venu s'ajouter à une série de faits divers violents, notamment le meurtre d'une fillette, et de procès dramatiques qui bouleversent la Suède depuis des semaines. Ce qui rend cette affaire particulière est que de très nombreuses Suédoises sont en mesure de s'identifier avec la jeune Susanna, pour la simple raison que la France en général, et Paris en particulier, est sans doute la destination favorite depuis des décennies des jeunes filles au père suédoises. Elles y passent 6 mois, 1 an, plus parfois, apprennent la langue et s'amusent, en ramènent généralement un bon souvenir. On imagine donc sans peine qu'il a dû coûter beaucoup à l'ambassadeur de Suède à Paris, un authentique francophile, de mettre en garde ses jeunes compatriotes en leur conseillant fermement de ne pas se promener seuls dans les rues de Paris. Comme pour lui faire écho, des policiers français devraient venir en Suède interroger une jeune Suédoise qui a été violée en février à Paris par un chauffeur, peut-être le même homme qui aurait tué Susanna.
Alors Georges Brunier, vous êtes allé également sur place en Suède rencontrer la famille de Susanna Zetterberg.
C'est ça, dans la banlieue de Stockholm où j'ai rencontré deux femmes en état de choc des années entières après les faits. D'abord la mère de Susanna, qui parle très bien français puisque elle l'a étudié pendant ses études et elle a eu l'occasion à de nombreuses reprises de venir.
Pardonnez-moi, vous dites des années après parce que c'était juste avant le procès de 2012.
J'ai rencontré quatre ans après les faits. Oui. Et il y a évidemment qui est plus que légitime et compréhensible, un vide affectif énorme, une incompréhension totale de cette violence qui est quelque chose d'incompréhensible en Suède, parce que la Suède est quand même un pays où la violence quotidienne est à des années-lumière de celle qu'on connaît en France. On n'est pas habitué à ce genre de faits, à des enlèvements, des viols sordides, des meurtres absolument abominables. Donc c'est quelque chose évidemment d'extrêmement douloureux pour une mère. Et puis j'avais rencontré Vera qui a le même âge. Qui avait le même âge que Susanna, ouais, et qui avait passé avec elle cette nuit à la Scala. Ouais. Et même chose, il y a c'est très palpable quand on discute avec elle, c'est notamment ce sentiment de culpabilité. Parce que elles avaient décidé avec quelques copines de rester un peu plus à la Scala, de continuer à faire la fête. Susanna, elle, avait décidé de rentrer seule parce qu'en effet, elle devait travailler le lendemain matin, quelques heures seulement plus tard. Et il y a ce sentiment terrible Vérame le disait, qu'il va sans doute, qu'elle l'aura jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle aurait dû accompagner et revenir ensemble en taxi, en métro, peu importe, avec Susanna, et que peut-être Susanna serait aujourd'hui encore en vie.
Alors, à votre retour de Suède, vous aviez diffusé sur RTL un entretien que vous aviez eu avec la mère de Susanna Zetterberg, et ce qui a frappé tout le monde lorsque ce document était diffusé sur l'antenne d'RTL, c'est l'absence, je dirais, de sentiment de vengeance de cette femme. Alors, écoutez, c'était donc le 4 septembre 2012, ou le 3 septembre plus exactement, la veille de l'ouverture du procès de Bruno Chollet devant les assises de Paris, le 3 septembre, eh bien, écoutez ce que la mère de Susanna disait au micro de Georges Brognier.
Je sais que ça va être très très dur pour nous trois. Je ne sais pas si j'espère quelque chose pour moi, pour nous. L'important, c'est s'il est condamné, c'est prouver que c'est lui. Je ne peux jamais, jamais, jamais le pardonner. N'importe quelle peine est là, ça ne donne pas la vie à Sana. Même s'il confesse, non, jamais, c'est impossible de pardonner. J'ai vraiment besoin de savoir tout qu'on peut savoir. Mais pas par lui, parce que on ne va pas savoir que c'est la vérité. Et c'est toujours plus difficile quand ses enfants ont mal que quand on a mal soi-même. Et je ne pouvais pas la protéger de ça. Et ça va toujours être la plus dure.
Voilà, et donc la famille a assisté au premier procès et assiste également au procès qui vient de s'ouvrir aujourd'hui en appel. Alors, on va parler maintenant de la personnalité de Bruno Chollet. Qui est cet homme? Est-ce que, finalement, parce qu'on se pose toujours la question, après coup, malheureusement, est-ce que certaines personnes dont ses proches auraient pu alerter, par exemple, ou être alertées par son comportement? Alors, avant de vous laisser nous rappeler le parcours de Bruno Chollet, on va écouter un autre document que vous avez enregistré chez elle, à son domicile parisien de la rue des Vinaigriers, avec la compagne donc de Bruno Chollet. Écoutez.
Son domicile garde encore les traces de la perquisition des enquêteurs de la brigade criminelle. Un petit appartement sans dessus-dessous, un lit retourné, des vêtements étalés partout, des tiroirs vidés. Nathalie est mentalement épuisée, mais dit ressentir le besoin de se confier. Elle va le faire pendant plus de 4 heures, assise face à moi dans une obscurité presque totale, de peur d'être observée par ses voisins, d'être traquée par des photographes. Toute cette histoire est un cauchemar, un horrible cauchemar, me raconte en pleurant l'ex-compagne de Bruno Chollet. Cet homme qu'elle décrit attachant, charismatique, mais souvent nerveux, parfois manipulateur, elle qui l'a hébergé pendant un an. Sans rien savoir, elle le jure de son lourd casier judiciaire. « Il ne m'a jamais rien dit, j'ai découvert sa vie dans la presse », répète-t-elle, comme pour se justifier, pour dissiper tout soupçon. Elle assure aussi n'avoir jamais rien su de l'affaire Susanna. Ce sont les policiers qui m'ont tout raconté. Il y a ce souvenir, toutefois, indélébile. Les jours qui ont suivi le meurtre de la jeune Suédoise, Bruno Chollet ne lui a jamais semblé aussi calme, aussi serein. « Je vais arrêter de faire le taxi pendant quelques jours », lui raconte-t-il alors. « Je vais devoir éteindre mon téléphone portable. N'essaye pas de m'appeler. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. »
Alors, maintenant, si on remonte le temps, c'est quoi le parcours de cet homme?
Ah, c'est un parcours chaotique. C'est un homme qui, quand il est arrêté pour l'affaire Susanna à 51 ans, il a passé à peu de choses près 20 ans en prison pour des vols, pour des braquages, pour des agressions et à deux reprises pour des enlèvements suivis de viols, avec chaque fois le même mode opératoire, c'est-à-dire des viols qui ont lieu, comme pour Susanna, dans une forêt. Il est en voiture, il menace ses victimes avec une arme et il les menotte dans le dos. Donc on a vraiment affaire à un violeur en série qui, dans l'affaire Susanna, a atteint un niveau de violence qu'il n'avait jamais atteint jusqu'à présent, puisqu'il va aller jusqu'à tuer Susanna.
Et il s'est jamais...
Quand bien même lui le dément, bien évidemment.
Il s'est jamais, voilà, c'est ça, il s'est jamais expliqué là-dessus, puisque
jamais.
Je dis, mais c'est pas moi.
Ouais, bon. Jamais, il a toujours expliqué que c'était un complot policier, qu'il avait reçu des avances de la part de policiers quelques semaines plus tôt, voulant faire de lui un de leurs indics, et qu'il avait refusé de servir de tonton, et que, du coup, les policiers avaient voulu se venger en imaginant, ce viol, ce meurtre, et en chargeant, comme il le disait, Bruno Chollet.
Et sa compagne, donc là, vous étiez chez elle, elle, en dehors de ce qu'elle vous a raconté, c'est que vous rappeliez, là, 24 heures avant, il dit, tu vas pas pouvoir me joindre, donc il y a de la préméditation, quoi.
Oui, bien évidemment.
Comme ça.
Elle ne se doutait absolument de rien. Elle a découvert l'affaire tout simplement.
Elle connaissait son passé ou
elle
ou
le connaissait, mais dans les grandes lignes, il était assez discret là-dessus. Il lui avait dit qu'il avait fait un peu de prison, qu'il avait eu des ennuis avec la justice, mais elle ne connaissait pas tout dans le détail. Il s'était bien gardé de lui dire. Et l'affaire Susanna, elle va la découvrir lorsque les policiers vont tout simplement l'interpeller pour vérifier aussi son emploi du temps, vérifier qu'elle avait des alibis. Et elle, évidemment, elle est dans un état de choc inimaginable quand je la rencontre, puisque l'affaire fait un bruit absolument colossal et elle découvre que l'homme qui partage sa vie depuis des années est accusé d'un crime absolument horrible.
Alors, je faisais allusion au début de l'émission à cette polémique sur l'ADN de Bruno Chollet qui n'était pas entré dans le fichier national des empreintes génétiques. Est-ce qu'on a compris pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était Madame Alliot-Marie qui était ministre de l'Intérieur, qui avait fait des déclarations disant qu'on avait changé les choses, qu'il fallait vérifier.
Oui, c'est
on
ça.
On a vérifié ?
Alors, ça avait été vérifié à l'époque. On n'avait jamais eu d'explication au final. C'est vrai que c'est très curieux, c'est même invraisemblable. On a échappé de peu à un énorme scandale judiciaire, parce que là, Bruno Chollet est interpellé, heureusement, j'ai envie de dire, très peu de temps après les faits. Mais si ça n'avait pas été le cas, évidemment, l'ADN aurait pu totalement changer les choses, et on aurait pu avoir une véritable catastrophe judiciaire, et Chollet aurait pu continuer d'autres faits comme ça, puisque tant qu'on n'a pas son ADN dans le fichier, ça complique évidemment énormément les choses. Alors, depuis, en effet, la chancellerie avait dit prendre des mesures de façon à ce que ce genre de couac ne se reproduise plus jamais.
Alors, on va faire une pause. Tout de suite après, on va entendre le point de vue de Maître Aurélie Cerceau, qui est l'avocate de Bruno Chollet, et qui, vous allez l'entendre, a confirmé à Margot Agnès par téléphone qu'elle allait s'aligner sur la position de son client, qui est de dire « Je suis innocent ».
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Comment les avocats des parties civiles et de la défense abordent ce dernier procès, ce procès en appel de Bruno Chollet? Maître Jean-Yves Le Borgne, dans un instant, nous dira comment il aborde le procès au nom de la partie civile, de la famille de Susanna Zetterberg. Tout de suite, on va entendre Maître Aurélie Cerceau, donc du barreau de Paris, avocate de Bruno Chollet. Comme je vous le disais, elle a confirmé à Margot Agnès qu'elle allait plaider l'acquittement et elle a ajouté qu'elle allait se battre pour cela, pied à pied sur toutes les phases de l'enquête de la police. Écoutez.
Moi, je plaide l'acquittement pour plusieurs raisons. Déjà, depuis le début, il clame son innocence. Depuis le premier jour et tout au long de l'instruction, et puis ensuite, même devant la chambre de l'instruction, il a clamé son innocence, donc je plaide l'acquittement. Alors, de quelle manière? D'abord, en mettant en exergue les imprécisions du dossier, desquelles, me semble-t-il, ont été tirées des conclusions qui étaient plutôt hâtives.
Pour vous, il n'y a donc pas de preuves accablantes contre votre client?
Il y a des éléments qui sont effectivement assez troublants. L'arme qu'on retrouve, l'ADN de mon client qu'on retrouve sur l'arme. Mais il y a d'autres éléments qui sont assez préoccupants. Quand on voit que l'enquête a fait l'impasse sur certains éléments objectifs, d'abord, ils se sont précipités sur les faux taxis, alors même qu'il y avait un témoignage très important qui disait qu'il y avait un vrai taxi, enfin un vrai taxi, ou en tout cas un taxi avec un lumineux. Ils se sont focalisés sur celui qui, en fait, avait le casier judiciaire le plus impressionnant. Quand on voit la fouille du véhicule, là aussi, moi, je poserais des questions aux policiers, aux enquêteurs. Il est arrêté, son véhicule est mis sur le côté, et puis ensuite, il y a une première fouille, un premier tour du véhicule qui est réalisé avec un peu une énumération à la Prévert de tous les éléments qui sont dans le véhicule. Et là, on ne voit pas de sac plastique, on le voit, des bouteilles d'eau, enfin un certain nombre d'éléments, mais on ne voit pas de gros sac plastique, pourtant imposant et qui se serait vu. Et en revanche, le lendemain, on voit un sac plastique dans lequel on verra plus tard qu'il y a une arme et qui est l'arme du crime. Bizarrement, entre le moment du premier tour du véhicule où on ne voit pas ce sac et puis le moment où finalement bah, on va voir ce sac et ce qui en découle, il n'y a pas de PV de placement sous scellé du véhicule, il n'y a pas de PV du transport du véhicule, on ne sait pas à quelle heure il est transporté, par qui, comment. Ensuite, ce qui est aussi troublant, c'est tous les actes, les demandes d'actes qui sont refusées à mon client. Tout au long de l'instruction, il a fait des demandes d'actes. Par exemple, la comparaison de la terre retrouvée sur certains éléments, certains objets, et puis la terre de la forêt de Chantilly. Ça lui a été refusé, alors que ça, d'ailleurs, ça aurait pu le confondre complètement. Il a demandé une reconstitution de son arrestation, c'est-à-dire à partir du bois de Boulogne, pour savoir ce que les enquêteurs avaient pu voir, n'avaient pu pas voir, où il se trouvait. Et là encore, on lui refuse. Il a demandé à ce que soient comparées les traces, ses pneus et les traces de pneus sur les lieux du crime. Et ben là aussi, on lui a refusé, alors que ça aurait pu le confondre. Celui qui a commis le crime essaie la carte bancaire de Susanna Zetterberg. Il y a un film, on voit pas grand-chose, mais on voit relativement bien les mains de la personne qui a retiré l'argent. Il y a un reflet, donc il aurait fallu là aussi une expertise pour comparer les mains de mon client et les mains qui se sont reflétées dans le miroir de cette fameuse banque. Mais là encore, il demande cette expertise et on lui dit ben non, 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 ça n'est pas la peine. Il y a des éléments qui sont étonnants et qui mériteraient des précisions parce qu'on est dans un crime qui est terrifiant, avec une famille qui vit l'enfer et un homme qui clame son innocence, qui le clame depuis des années et des années.
Comment se passe la détention de Bruno Chollet ?
Ça se passe bien, il n'y a pas d'incident. Il y a un visiteur de prison qui vient le voir régulièrement, mais c'est la seule personne, bon, à part ses conseils. Hein. Aucun de ses proches ne vient le voir, c'est un homme seul.
Et comment il aborde ce nouveau procès ?
Je pense qu'il a pris du recul et de la hauteur par rapport au premier procès. Il a très envie de s'expliquer, de parler de ce qu'il faisait, de ce qu'il faisait ce jour-là. Il avait déjà envie de le faire, bien sûr, la dernière fois, mais là, avec un recul qui est nécessaire d'ailleurs pour pouvoir donner des explications précises. La dernière fois, il n'a peut-être pas eu les bons mots ou la manière de le dire pour être entendu. Et là, il a cette envie d'être et il va tout mettre en œuvre pour pouvoir être entendu.
Maître Aurélie Cerceau, donc au micro de Margot Agnès pour l'heure du crime. Donc tout cela, on va parvenir là-dessus, hein, Georges Brunier, c'est ce que vont entendre les jurés, les policiers de la crime vont venir répondre aux différents arguments, bien sûr. Il va rester aussi, donc il va y avoir un moment très fort, évidemment, comme au premier procès, c'est ce crime terrible, selon les mots même hein, de Maître Cerceau. Certains psychiatres disent que des accusés n'avouent pas et n'avoueront jamais, tout simplement parce que l'horreur du crime fixé, comme on le dit dans le langage courant, c'est inavouable.
Je crois qu'il faut réaliser en effet l'agonie qu'a connue Susanna. On est là vraiment dans un film d'horreur. Il faut imaginer cette jeune femme enfermée, prise au piège dans un taxi dont les portes sont verrouillées. Elle est menottée dans le dos. Lorsque Bruno Chollet arrive en forêt de Chantilly, il va la traîner sur plusieurs mètres sur le dos alors qu'elle est toujours menottée. Il va lui donner un premier coup de couteau au niveau de la poitrine, près du cœur. Coup qui ne va pas lui être fatal. Il va vraisemblablement la mettre debout et à ce moment-là tirer 4 balles en pleine tête. Il y a une inconnue. Quelque chose qu'on n'arrivera jamais à savoir, c'est si Bruno Chollet l'a ou pas violée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a son pantalon qui a été vraisemblablement légèrement baissé. Et ce que font souvent les criminels, et parfois les violeurs, le corps de Susanna a été brûlé. Mmh. Et l'autopsie n'a jamais permis de déterminer voilà, ce qui efface les éventuelles traces. Et ça, on n'arrivera jamais à le savoir.
Alors, on va faire une dernière pause dans l'émission et on retrouvera ensuite Maître Jean-Yves Le Borgne, donc, qui est l'avocat de la partie civile dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Après avoir entendu Maître Aurélie Cerceau, donc l'avocate de Bruno Chollet, on va entendre ce qu'a dit au téléphone Maître Jean-Yves Leborgne à Margot Agnès. Il ne pouvait pas, évidemment, je le disais tout à l'heure, être présent, puisqu'ils sont devant la cour d'assises de Melun en ce moment même. Alors, écoutez, Jean-Yves Leborgne, qui d'ailleurs défend, qui est l'avocat de la famille Susanna depuis le début de l'affaire, a expliqué à Margot Agnès comment les Etterberg vivent encore ce drame, et comment d'ailleurs ils ont tenu le choc, si j'ose dire, au cours du premier procès.
Le drame que représente l'assassinat d'une jeune fille de l'âge de Susanna est nécessairement une épouvantable tragédie pour une famille, et je pense qu'une tragédie de cette nature est encore amplifiée par l'éloignement dans la distance, dans la géographie, mais aussi dans la culture. Car en réalité, lorsque la justice française s'est emparée tout naturellement de cette affaire et l'a traitée, il fallait que les parents de Susanna comprennent ce qui se passait. Je dois à la vérité dire que l'institution judiciaire a été tout à fait à la hauteur de sa tâche et de sa mission humaine. Le père, la mère, le frère de Susanna ont compris quelle était la mission et la façon dont elle l'organisait, de la justice française, et ont apprécié le travail qui avait été accompli.
Comment s'est passé le premier procès pour la famille Zetterberg ?
Pendant le premier procès, la famille a écouté avec infiniment de retenue, avec beaucoup de discrétion et avec une douleur terrible, car l'évocation nécessairement un peu froide, nécessairement un peu objective, un peu matérialiste de la scène du crime, des constats qui ont été faits, tout cela est évidemment extrêmement difficile à supporter lorsque celle qui en a été victime est votre fille ou votre sœur.
Et comment ils ont accueilli le verdict ? Est-ce qu'ils ont été satisfaits de ce jugement ?
Vous savez, ces personnes n'étaient pas dans la vengeance. Ils étaient dans l'attente de ce qui allait se passer, avec un grand respect pour ceux dont la tâche et la mission étaient de juger. Ils attendaient sans avoir un désir de vengeance, sans avoir la volonté d'une peine maximale, étant entendu que l'horreur de l'acte faisait que on ne pouvait qu'attendre une peine extrêmement forte. Elle l'a été, et quelque part, je ne vois pas comment on pourrait en être surpris.
Et comment la famille de Susanna aborde ce nouveau procès ? Est-ce qu'ils le redoutent ?
L'expérience du premier procès les a préparés au second. Je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi présents dans ce second procès. Je crois qu'ils font maintenant vraiment confiance à la justice française. On sait aussi, il faut bien le dire, que le principe de culpabilité de Bruno Chollet dans cette affaire est difficilement discutable.
Pour vous, quel est véritablement l'enjeu de ce procès ?
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, mais compte tenu des éléments qui sont dans cette affaire, je pense que l'enjeu est assez limité et que le principe de culpabilité ne peut pas être discuté. Et je connais les moyens de la défense tels qu'ils ont été exposés lors du premier procès. Je ne sais pas si de nouvelles techniques seront employées lors de ce procès d'appel, mais à la limite, je dirais, peu importe, on a presque des photos du meurtrier. On a des photos du meurtrier, si vous voulez. Lorsque Susanna est enlevée, je pense qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore morte, elle n'a pas encore été assassinée, et que son meurtrier utilise sa carte de crédit dans un distributeur, il y a une caméra au-dessus de ce distributeur. On voit la personne qui utilise cette caméra, et si l'on ne voit pas très distinctement le visage, on voit au moins un certain nombre de traits caractéristiques dans l'habillement de ce personnage qui désigne le coupable.
Est-ce que votre plaidoirie sera assez proche du du réquisitoire de l'avocat général. Par rapport à lui, quel est véritablement votre rôle?
Chaque avocat de partie civile doit avoir comme mission de démontrer le principe de culpabilité. Je sais que l'avocat général qui sera à l'audience le fera très bien, et par voie de conséquence, la double mission de l'avocat de partie civile est à la fois le principe de culpabilité quand on estime que celui qui comparaît est coupable, et puis exprimer aussi ce que peut représenter un meurtre aussi affreux pour une famille qui est située loin de Paris et qui apprend tout à coup qu'une jeune fille qui y est pour ses études a disparu à cause de l'agression de quelqu'un que je préfère ne pas qualifier.
Et parlez-nous un peu de la mère de Susanna, parce que son combat va bien au-delà du jugement du meurtrier de sa fille. Elle a créé une fondation aussi suite à la mort de Susanna. Qu'est-ce que ça représente pour elle ?
Son état d'esprit, comme l'état d'esprit du père ou du jeune frère, n'est pas dans la vengeance. La fondation a été créée un peu comme l'élément de rappel, si vous voulez, une sorte d'action dans la vie qui évoque ce qu'a été Susanna. C'est à la fois très beau, très poignant, et c'est un peu aussi une façon très admirable de refuser qu'elle soit vraiment morte.
Voilà, donc c'était Maître Jean-Yves Le Borgne au micro de Margot Agnès pour l'heure du crime. Georges Brognier, un dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Il faut se souvenir aussi que à travers cette affaire terrible, il y avait eu un mouvement de panique vis-à-vis de femmes, vis-à-vis des taxis parisiens, qui eux-mêmes d'ailleurs avaient manifesté en demandant que leur provision soit mieux régulée, qu'on fasse la chasse aux taxis clandestins en fait.
C'est ça exactement, il y avait eu une prise de conscience en fait, je pense, sur le danger potentiel que peuvent représenter ces taxis clandestins. Ce qui était frappant, c'est que Susanna, en effet, était complètement ivre, qu'elle ne se rendait pas bien compte du coup de est-ce qu'elle rentrait dans un taxi classique ou un taxi clandestin. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous rentrez dans un taxi clandestin, on ne sait pas à qui on a affaire, et les enquêteurs, si jamais il y a un problème, vont avoir beaucoup plus de mal à remonter jusqu'à ce véhicule.
C'est ça. Donc il faut simplement, c'est un conseil de prudence.
De prudence élémentaire.
Tout bête, quoi. Voilà, prenez un vrai taxi, et s'il n'y a pas les insignes habituels des taxis, bien, prenez-en un autre. Je vous remercie beaucoup, Georges Brognier. On disait tout à l'heure l'affaire est restée exceptionnelle pour la brigade criminelle, mais pour vous aussi.
Oui, c'est une affaire vraiment très marquante pour tout un tas de raisons qu'on a pu évoquer et qui ne laisse pas indifférent. Ouais.
L'émission est maintenant terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes.